On continue avec prophétie 20, numéro 21. Aucun os rompu. Dans le psaume 34, verset 20, nous lisons « Il, l'Éternel, garde tous ses os, pas un d'eux n'est cassé. » Eh bien, parfois, par compassion, les Romains ont cassé les ossements des pieds pour que le crucifié ne peut plus appuyer pour prendre de l'air. Et dans quelques minutes, 3 minutes environ, après, ils étaient morts, étouffés. Et parce que les crucifiés devaient être descendus des croix avant la soirée de la grande fête, eh bien, Ponce Pilate a permis qu'on tue les crucifiés avant de la mort qui aurait été la conséquence de la crucifixion. Et ils ont cassé les pieds des deux criminels qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont venus vers Jésus-Christ, au milieu, il était déjà mort. Alors ils n'ont pas cassé les ossements. Et ainsi le psaume 34, verset 20, s'est accompli. 22. Mort dans les 30 années. Dans le psaume 102, verset 24, nous trouvons une prière prophétique du Messie. « Mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. » N'est-ce pas, Moïse, dans le psaume 90, verset 10, explique « Les jours de nos années montent à 70 ans. » Leur orgueil encore est peine et vanité, car notre vie s'en va bientôt et nous nous envolons. Eh bien, ce terme, la moitié de mes jours, veut dire donc la moitié environ de ces 70 ans qu'on pouvait atteindre comme juif, selon le psaume 90. Eh bien, Jésus-Christ est mort lorsqu'il avait l'âge de 33 ans. Donc, au milieu de la vie d'un juif. Pieux. 23. Mort en sacrifice à Jérusalem. Nous lisons en Genèse 22, où Dieu a donné l'ordre à Abraham, a donné son fils Isaac comme sacrifice. Verset 22. Au verset 2, Dieu dit « Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai, le pays de Morija. » N'est-ce pas, le mont Morija, j'ai expliqué ce matin, est la même chose dans l'Ancien Testament comme le mont Sion. C'est le mont du Temple. Et voilà, sur la pente sud de ce mont Morija, se situait la ville de Jérusalem ou de Salem déjà depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ, donc à l'époque d'Abraham. Donc le pays du Morija, c'était donc le pays autour de la ville de Salem qui se trouvait sur le dos du mont Morija. Et puisque le mont Morija, c'était la colline connue, Dieu dit « Va-t'en Va-t'en au pays de Morija, mais pas pour offrir Isaac sur le mont Morija, mais Dieu ajoute, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Mais bien sûr, Isaac était épargné parce que Isaac était un homme pécheur comme nous, et un pécheur ne peut pas être un sacrifice pour un pécheur. Il fallait le sacrifice du Messie qui serait complètement juste et parfait. C'est pour ça qu'il était épargné. Mais nous lisons Genèse 22, verset 14, et Abraham, après que son fils a été épargné, et Abraham appela le nom de ce lieu-là, Yahvé Yireh, en hébreu. Yahweh Yireh, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Adonai Yireh ou Jéhovah Yireh veut dire en hébreu l'Éternel pourvoira. Mais quoi? Lisez dans le contexte. Déjà avant, lorsque Abraham avec son fils est allé vers cet endroit, Isaac demande le bois, le feu, où est le sacrifice? Et Abraham dit, Dieu pourvoira le sacrifice. Donc, le terme pourvoir dans ce contexte est la providence de Dieu en vue d'un sacrifice. Et alors, Abraham a dit, a donné un nouveau nom à cette colline près du mont Morija. L'Éternel pourvoira. Et Moïse ajoute, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, on pouvait savoir que le sacrifice du Messie aura lieu près de la montagne de Morija, sur une des collines là. Eh bien, dans la rétrospective, nous pouvons dire, oui, le rocher de Golgotha, sur lequel Jésus-Christ a été crucifié par les Romains, devant les portes de Jérusalem à l'époque, se trouvait exactement sur la colline sud-ouest de la vieille ville d'aujourd'hui, donc une colline juste à côté du mont du Temple. Et voilà l'accomplissement parfait. 24. Meurtre du Messie. Nous avons déjà lu en Daniel 9, les semaines de Daniel. Et nous avons vu comme, effectivement, en mars-avril, 32 après Jésus-Christ, le Messie a dû venir comme prince. Mais le texte en Daniel 9 continue et ajoute, « Et le Messie sera retranché et n'aura rien. » 5 jours après sa venue à Jérusalem sur l'âne, lorsqu'il était salué par la foule comme Messie, prince, la foule devant Ponce Pilate a changé d'idée. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et Jésus-Christ a accompli aussi cette prophétie. Le Messie sera retranché et n'aura rien. 25. Pas de règne de paix et n'aura rien. Il est remarquable, lorsque vous parlez avec des juifs orthodoxes concernant le Messie, vous allez voir qu'un argument principal pour dire « Jésus n'était pas le Messie », c'est l'argument suivant. Si Jésus était le Messie, on aurait depuis 2000 ans la paix sur la terre. Eh bien, un jour, j'ai parlé avec un juif orthodoxe, près d'ici d'ailleurs, et il avance cet argument. Et puis je dis, mais il faut voir ce que la parole, le Tanakh, dans un testament dit. Et puis j'ai lu Daniel 9, je lui ai cité Daniel 9, « Hamashiach yikaret ve'einlo ». Le Messie sera retranché et n'aura rien. Alors j'ai pu expliquer, si on avait la paix depuis 2000 ans, Jésus n'était pas le Messie. 26. Destruction de Jérusalem. Le texte dans Daniel 9 continue. Nous avons calculé les jours du Messie jusqu'à sa venue. Ensuite, il sera retranché, n'aura rien. Mais le texte continue. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Eh bien, Daniel savait à l'époque, oui, un jour le décret va sortir pour rebâtir Jérusalem. Ensuite, on peut calculer les jours jusqu'à ce que le Messie vienne. Mais lorsqu'il sera venu comme prince, il sera retranché, n'aura rien. Et après de nouveau la destruction de la ville de Jérusalem. Et voilà, en 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent Jérusalem. Et vous pouvez voir dans les commentaires juifs du Moyen Âge, vous trouvez l'explication que ce verset parle de la destruction de Jérusalem à l'an 70. Donc, il faut accepter que le Messie soit venu juste avant la destruction de la ville de Jérusalem à l'an 70, n'est-ce pas? Tiens, mais comment on peut supporter ne pas croire en Jésus comme le Messie tout en maintenir l'Ancien Testament et la parole de Dieu? Eh bien, souvent, je suis confronté avec cette question. Mais qu'est-ce que les juifs orthodoxes disent en rapport avec les semaines de Daniel? C'est tellement évident. Alors là, je cite un des plus grands rabbins du judaïsme des 2000 ans passés. C'est Moshe ben Maimon. Et au XIIe siècle, il a écrit une lettre. Je la possède, n'attends pas l'original. Et là, il écrit à une communauté de juifs à Yémen qui avait un problème avec un faux messie à l'époque. Et il écrit dans cette lettre, Igeret HaTeman, lettre au Yémen, il parle de cette prophétie en disant, Daniel nous a révélé la science des chiffres de l'avenir. Mais cette prophétie est sombre. Pour nous, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça les savants, donc les rabbins du passé, ont dit qu'il ne faut pas calculer ces jours-là pour ne pas donner occasion de chute à quelqu'un dans le peuple juif lorsqu'il verrait que ces jours sont découlés et le Messie n'est pas venu. C'est pour ça qu'ils ont prié que celui qui ferait quand même le calcul, que son calcul sera détruit et son âme soit brisée. Nous avons fait le calcul. Vous allez encore bien? Oui, ça va bien pour moi? Et il est aussi clair, oui, ces temps sont découlés exactement lorsque Jésus-Christ est venu comme prince. C'est vraiment fermer les yeux pour ne pas voir les faits. Mais ce n'est pas seulement là où on trouve ce phénomène. On le trouve aussi chez nous, n'est-ce pas? Quand on pense aux athées qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais comment ils peuvent expliquer l'origine de la DNA, qui est vraiment la signature du Créateur que nous portons dans chaque cellule? Impossible d'expliquer l'apparition de la DNA par des processus naturels en chimie. Impossible! Impossible! Et chacun doit avouer, oui, c'est quand on veut faire ça par des expériments, c'est impossible de le produire, et quand même, il ne veut pas croire en Dieu. C'est la même chose. 27. Destruction du temple. Daniel 9 ne dit pas seulement le peuple du prince qui viendra détruire la ville, mais aussi et le lieu saint. Donc, Daniel, qui a vécu à l'époque la destruction du temple de Salomon, premier temple, devait prophétiser après la mort du Messie, le deuxième temple sera aussi détruit. Et voilà, en l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent le second temple. Et depuis, le temple n'a plus été reconstruit. Et en plus, les Romains, d'abord, voulaient épargner le temple. Et dans la crise de la guerre, un soldat a quand même commencé à brûler le temple. Et ça a fini par la destruction totale. 28. Les Romains arrivent. Deutéronome 28, 49. Moïse décrit les conséquences du rejet du Messie. L'Éternel amènera contre toi de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entends pas la langue. De loin, du bout de la terre. Alors, vous savez comme l'Afrique, l'Asie et l'Europe sont liées ensemble. Et les Romains étaient vraiment du bout de la terre, venant de l'Europe. 29. Comme l'aigle, une nation semblable à l'aigle qui vole. Ce qui a caractérisé l'armée romaine, c'était l'aigle. Voilà la description chez Joseph Flav, témoin oculaire, qui écrit dans La guerre des Juifs, livre 5, dans cette invasion du territoire ennemi. Titus faisait marcher en tête les contingents des rois et toutes les troupes alliées, après eux des pionniers et des arpenteurs pour dresser le camp. Ensuite, les bagages des chefs avec les soldats d'infanterie préposés à leur garde. Ils suivaient en personne entourés des soldats d'élite et des gardes armés de lance. Derrière lui, la cavalerie de la Légion, celle-ci précédait les machines qu'accompagnaient les tribuns avec leurs soldats d'élite et les commandants de cohorte. Ensuite marchaient les enseignes entourant l'aigle, précédées des trompettes que suivait l'armée rangée par fil de 6 hommes. Il décrit l'arrivée de l'armée romaine à Jérusalem. 30. Latin. Une nation dont tu n'entends pas la langue. Eh bien, à l'Orient de l'Empire romain, la langue utilisée était le grec et non le latin. Et voilà, l'armée est venue de loin, parlant latin. 31. Brutalité extrême. Une nation au visage dur, qui n'a pas égard au vieillard et n'a pas pitié de l'enfant. Lisons Joseph Flav qui décrit la guerre de Jérusalem. Tandis que le temple brûlait, les soldats ravirent tout le butin qu'ils trouvèrent et massacrèrent en foule ceux qui furent surpris. Sans pitié pour l'âge, sans respect pour ceux qui en étaient dignes, enfants et vieillards, laïcs et prêtres, étaient également mis à mort. La guerre enveloppait tout le monde, les suppliants avec les combattants. Famine. Elle mangera le fruit de tes bêtes et le fruit de ta terre, jusqu'à ce que tu sois détruit, car elle ne te laissera de reste, ni froment, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros bétail, ni accroissement de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Joseph Flav écrit, beaucoup étaient venus de tout le pays à la fête des Azimes, quand la guerre les enveloppa soudain. Ainsi, l'espace étroit où ils étaient confinés produisit d'abord une maladie pestilentielle et aggrava peu de temps après la famine. 33. Peste. Et il fera retourner sur toi tous les maux de l'Égypte dont tu as peur, et ils attacheront à toi. Eh bien, nous avons déjà lu comme Joseph Flav parle de la maladie pestilentielle lors de cette guerre. 34. Cannibalisme. Et dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'en serra, tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. D'ailleurs, ce texte, dans tous les synagogues du monde, on n'a pas le droit de le lire à haute voix, parce qu'on sait, chaque mot s'est terriblement accompli. Et voilà, c'était aussi le cas, ce cannibalisme pendant cette guerre, comme Joseph Flav le décrit. 35. Siège dans tout le pays. Deutéronome 28, 52. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que s'écroule dans tout ton pays des hautes et fortes murailles en lesquelles tu te confiais, et elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Cassius Dio, un écrivain romain, nous raconte que dans les deux guerres des Romains contre les Juifs, autour de 70 et 135, les Romains détruisirent 985 villes et 50 places fortes en Israël. Donc, à l'an 70, les Romains ont détruit Jérusalem avec plus d'1 million de morts. Mais ensuite, il y avait encore d'autres lieux de forteresse. Mais la dernière, c'était Massada, que les Juifs pouvaient encore tenir contre les Romains. Et à l'an 73 après Jésus-Christ, Massada, finalement, tombe. Cette forteresse au sud de la mer morte. C'était la dernière. Alors vous comprenez, lorsque, avec des, toujours de nouveau, avec des groupes de l'étranger, quand je vais à Massada, je lis là sur place ce passage de Deutéronome 28. Parce que c'était vraiment la dernière. Dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. 36. Retour en Égypte. Et l'Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Et là, vous vous vendrez à vos ennemis pour être serviteurs et servantes, et il n'y aura pas d'acheteurs. D'innombrables survivants de la guerre des Juifs ont été chargés sur des bateaux et transportés vers les marchés d'esclaves en Égypte. N'est-ce pas? L'Égypte, l'Afrique du Nord, faisait partie de l'Empire romain à l'époque. 37. Esclaves sans valeur. Nous avons lu pour être serviteurs et servantes, et il n'y aura pas d'acheteurs. Très vite, l'offre dépassa la demande et les esclaves n'eurent plus aucune valeur. » 38. Dispersion mondiale. Et vous serez arrachés de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et voilà, en un processus qui dura des siècles, les Juifs furent dispersés littéralement parmi tous les 5 continents du monde. 39. Persécution continuelle. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Tout le temps, les Juifs étaient persécutés. 40. Mort et extermination. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant et des yeux languissants et une âme défaillante. Voilà la porte de la mort. Entrée du camp de concentration de Birkenau. Aucune sécurité, et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Voilà une représentation de la véracité de ce verset comme sculpture victime juive du fascisme. Dans le cimetière juif de Berlin-Centre. C'est vraiment touchant. 42. Peur et désespoir. Le matin, tu diras, qui donnera le soir? Et le soir, tu diras, qui donnera le matin? C'était l'atmosphère dans les ghettos. Et dans les camps de concentration. Mais pas seulement là, à travers tous les siècles, comme nous allons encore voir. 43. Terreur et horreur, à cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. 44. Moquerie et dérision. Jérémie 29, 18. Et je les poursuivrai avec l'épée, avec la famine et avec la peste, et je les livrerai pour être chassés ça et là par tous les royaumes de la terre, à l'exécration. Et à la désolation et au sifflement, et à l'opprobre dans toutes les nations où je les chasserai, parce que, dit l'Éternel, ils n'ont point écouté mes paroles. Et il ne faut pas illustrer ce qui s'est passé, ce qui concerne moquerie et dérision des Juifs. Il ne faut pas répéter ces phrases. Voilà l'accomplissement des points 38 à 44. Par un aperçu des persécutions, donc les plus importants, plus importantes. 70, guerre des Juifs, plus d'un million de morts, comme j'ai déjà expliqué. 115 à 17, Chypre, Égypte, Cyrène, Israël, Mésopotamie, des centaines de milliers de morts parmi les Juifs. 40 000 chassés de Chypre. 132 à 135. Là, lors de la deuxième guerre des Romains contre les Juifs, 530 000 morts et à peu près encore un demi-million de morts par la suite, la famine et la pestilence. D'ailleurs, dans les années 70 et 135, plus d'un million de Juifs a pris la fuite pour aller à Babylone, hors du territoire des Romains. 415, Alexandrie, 100 000 Juifs vandalisés et chassés. 499, terrible persécution en Perse. 581 à Babylone et en Perse, persécution des Juifs. 632, la période de Mohammed, expulsion des Juifs d'Arabie. 640, de nouveau, expulsion des Juifs d'Arabie. 721, expulsion d'Arabie. 873, persécution dans l'Empire byzantin. 930, persécution dans l'Empire byzantin. 1015 à Caire, 12 000 Juifs tués. 1033 à Fès, au Maroc, plus de 6 000 Juifs tués. 1066 à Grenade, plus de 5 000 Juifs tués. 1096, donc en Allemagne, Rhénanie, 12 000 Juifs tués. 1099 à Jérusalem, massacre des Juifs. 1146 en Espagne, oppression des Juifs. 1150 en Tunisie, persécution massive. 1232 à Marrakech, massacre, persécution dans tout le Maroc. 1236 en France, 3000 Juifs tués. 1270 en Tunisie, de nouveau persécution massive. 1290 en Angleterre, 370 000 Juifs étaient expulsés. 1298 en Franconie et en Bavière, donc Allemagne actuelle, 100 000 Juifs tués. 1306, expulsion des Juifs de France. 1348-49, c'était, n'est-ce pas, l'époque de la peste en Europe, qui a tué un tiers de la population européenne. Et là, les Européens ont dit, mais c'était les Juifs qui sont derrière, qui ont mis du poison dans les puits. Alors, 1 million de Juifs étaient tués à l'époque, en Europe. 1355 à Tolède, Espagne, 12 000 tués par la foule arabe. 1345 à 60, expulsion des Juifs de Hongrie. 1391 à 97, massacre des Juifs en Espagne. 1391 à Palma, 50 000 Juifs tués. 1420, extermination de la communauté juive à Toulouse. 1421 en Autriche, expulsion des Juifs. Et 1491 en Espagne, 160 000 Juifs expulsés. 1495 en Lituanie, expulsion des Juifs. Et 2 ans plus tard, en Sicile, Sardine, Portugal, expulsion des Juifs. 1502, en Rhodes, à Rhodes, oppression des Juifs. Et voilà, 1541, au royaume du Népal, expulsion. Et 1648 à 56, en Pologne, les Chmielnicki massacre, 100 000 assassinés. 1727 en Russie, expulsion, dans le même siècle, 47, nouveau expulsion des Juifs de la Russie, 1750 à 1830. Pendant toute cette période, dans l'Empire ottoman, sévères mesures anti-juives, beaucoup fuient en Perse et en Inde. 1785 en Libye, persécution sanglante, et 1864 à 80, en Maroc, 500 Juifs assassinés, et 1871 à 1921, en Russie, persécution massive dans de nombreuses villes. Là, on parle des pogroms, n'est-ce pas, avec le terme russe pour dire persécution. des Juifs, et finalement 1939 à 45 en Europe par les nazis, à peu près 6,5 millions juifs assassinés. Ensuite, prophétie 45, le pays devient un désert. Lévitique 26, 32 décrit les conséquences du rejet du Messie. Et je désolerai, dit l'Éternel, le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. Et effectivement, dès l'an 70 après Jésus-Christ, par un processus de plusieurs siècles, il y a eu une dévastation et dépeuplement du pays qui autrefois ruisselait de lait et de miel. 46, endurcissement. En Ésaïe 6, verset 9, nous lisons, « Et il dit, va et dis à ce peuple, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez et vous ne connaîtrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple et rend ses oreilles pesantes et bouche ses yeux de peur qu'il ne voie des yeux et n'entende de ses oreilles et ne comprenne de son cœur et ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. » Et j'ai donné un exemple comme le rabbin, le grand rabbin Moshe Ben Maimon, il dit « On ne comprend pas Daniel 9. » Même qui sait exactement, si on calcule, on arrive à l'époque de Jésus-Christ. Et c'est un fait, à travers les siècles, 2e, 3e, 4e siècle, etc., il y avait toujours très peu de Juifs qui ont reconnu que Jésus est le Messie. Il y en avait toujours, mais très peu. Voilà cet endurcissement. Mais en même temps, 47, le Messie pour les non-juifs, car dans le même livre, Ésaïe 49, nous lisons, « Et moi j'ai dit, le Messie parle, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. » N'est-ce pas, puisque la masse l'avait rejeté. « Toutefois, mon jugement est par devers l'Éternel et mon œuvre par devers mon Dieu. » Et il me dit, « Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Et c'est un fait. Depuis le premier siècle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été annoncée aux nations non-juifs sur les 5 continents du monde, et des millions ont réalisé Jésus-Christ et le Sauveur. Envoyé pour Israël et pour tous les peuples. Et des millions à travers les siècles ont reconnu, je suis un pécheur devant Dieu. J'ai transgressé les commandements de Dieu et je peux être pardonné parce que Jésus-Christ, le Messie souffrant, est mort à ma place. Il a porté le jugement de Dieu pendant les heures sombres à la croix. Il a porté le jugement de Dieu que j'ai mérité pour l'éternité. Et maintenant Dieu peut me pardonner parce que j'ai confessé mes péchés personnels dans la prière à Dieu. 48, permanence d'une population résiduelle. Je reviens en Ésaïe 6, qui parle de cet aveuglement d'une grande partie du peuple juif. Et là, au verset 11, et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Donc cet endurcissement. Et il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants, et les maisons, de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes, et que le sol soit réduit en entière désolation, et que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. Donc, le pays d'Israël sera dépeuplé. Et pendant cette période, il y a l'endurcissement du peuple juif. Et je continue, mais il y aura là encore un dixième, et il sera de nouveau brouté comme le térébinthe et le chêne, dont le tronc reste quand ils sont abattus, la semence sainte en sera le tronc. Donc lorsqu'il y aura encore un dixième, c'est encore trop, ça va réduire encore plus. Mais il y aura toujours un reste, comme si on coupe un arbre, il reste dans le sol, le tronc, qui est l'espérance pour l'avenir, qu'il va repousser, n'est-ce pas? Et voilà, et il y avait, pendant les 2000 ans passés, toujours un reste de Juifs qui a vécu dans le pays. Donc, même que la masse a été dispersée dans le monde entier, il y avait toujours le lien direct du peuple juif avec leur terre. Ça, c'est important pour ceux qui disent, wow, les Juifs, qu'est-ce qu'ils cherchent là en Palestine? Ils étaient toujours liés avec leur terre. Donc, il y avait toujours ce tronc. Et voilà, le point le plus faible était au début du 19e siècle. Là, il y avait encore 5000 Juifs. C'était vraiment le point tout en bas dans la vallée. 5000. Et dans le même siècle, depuis 1882, ont commencé les vagues d'immigration de nouveau. Et depuis le 19e siècle, on constate un réveil parmi les Juifs. Depuis, comme jamais autrefois, des Juifs ont commencé à se convertir et reconnaître que Jésus est le Messie. Mais c'est clair, les prophéties messianiques. C'est clair, les semaines de Daniel. C'est clair. Et les rabbins ont déjà expliqué, ça parle du Messie, Ésaïe 53, Psaume 22, Daniel 9, ça parle de l'époque du premier siècle. Et aujourd'hui, au moins 400 000 Juifs, surtout au Canada et aux États-Unis, sont des vrais croyants qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, qui est Dieu et homme en une personne. Ça, on n'a jamais vu depuis le premier siècle. 49, longtemps sans état. Osée 3, verset 4. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. Ensuite, les fils d'Israël retourneront, c'est-à-dire au pays des ancêtres, et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Voilà une description merveilleuse de cette période sans état de 70 à 1948. Beaucoup de jours sans roi et sans prince. Mais la Bible ne dit pas éternellement, n'est-ce pas? Lorsque la Bible parle des peines éternelles, ça veut dire éternel. Et lorsque la Bible dit beaucoup de jours, c'est beaucoup de jours. Et ensuite, après cette période, ils vont retourner au pays et ce sera à la fin des jours. C'est la fin des temps, le retour des Juifs. Donc, la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Messie. Et voilà, point 50, vous êtes contents, n'est-ce pas, qu'on ne va pas continuer à 300, sans sacrifice. Eh bien, le texte l'a clairement dit, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. D'ailleurs, écrit au 8e siècle, avant Jésus-Christ. C'est remarquable. Sans sacrifice. Et voilà, le judaïsme n'a plus son temple depuis 70 jusqu'à aujourd'hui. Et parce que la Bible dit en Deutéronome qu'on peut seulement apporter des sacrifices au temple juif qui doit être planté à Jérusalem, selon l'Ancien Testament, on n'a plus pu offrir des sacrifices d'animaux. Donc, ça s'est accompli, beaucoup de jours sans sacrifice. Mais là, de nouveau, le texte ne dit pas éternellement sans sacrifice. Beaucoup de jours. C'est pour ça qu'il y a des passages qui parlent du fait qu'un troisième temple va être reconstruit et les sacrifices en Israël vont revenir. Et on se prépare déjà maintenant pour ça. Et je finis par Deutéronome 28, 45, où Dieu ajoute à cette prophétie remarquable que nous venons d'étudier ensemble, « Et toutes ces malédictions viendront sur toi » et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et ils seront sur toi et sur ta semence à toujours, comme un signe et comme un prodige. Un signe? la persécution des Juifs du passé, un signe. Pour qui? Eh bien, un signe pour toutes les autres nations. Car la Bible nous dit, si nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous recevons la vie éternelle de la part de Dieu. Mais si nous rejetons le Seigneur Jésus comme Sauveur, eh bien, là, nous devons subir les peines éternelles. Eh bien, là, un athée dit, je ne crois pas à l'enfer. Je ne crois pas à ces peines éternelles. Au Moyen-Âge, c'était possible, mais pas en temps moderne. Oui, personne de nous a déjà passé par la mort pour voir ce qui va venir après, n'est-ce pas? Mais nous sommes pas encore à l'au-delà, mais nous sommes ici. Et ici, nous pouvons voir si la parole de Dieu, de jugement, s'accomplit ou pas. Eh bien, le signe et prodige du peuple juif prouve, Dieu a dit, si le Messie sera rejeté par Israël, il y aura une catastrophe nationale, et Dieu a décrit en détail, et c'est un fait, qui ne peut pas être contesté. Donc, c'est la preuve, c'est un signe pour tous les autres peuples, ne rejetez jamais le Sauveur, car il y aura des conséquences éternelles. Et voilà, en Deutéronome 30, Moïse dit, regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives. Et le Nouveau Testament va plus loin. Ici, il s'agissait de la vie et du bonheur d'ici, sur terre. Mais le Nouveau Testament nous parle de la vie éternelle et du bonheur éternel et du malheur éternel. Et Dieu ne dit pas, choisis ce que tu voudrais. Non, Dieu dit comme un impératif, choisis la vie afin que tu vives. Donc Dieu nous commande à recevoir le Seigneur Jésus, le Messie souffrant, recevoir le sacrifice de Christ pour être sauvé, pour recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas simplement un choix, oui je veux ou je ne veux pas. Dieu dit, choisis la vie. C'est un commandement. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous devons choisir. Nous sommes devant le choix de bénédiction et malédiction, mais Dieu dit, choisis la bénédiction éternelle. Il faut venir dans la prière sincère devant Dieu. Il faut avouer devant Dieu tout ce que nous savons encore de péché et de transgression dans notre vie. Si possible, pardon, et remercier Dieu qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Et ainsi, la parole nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car le Messie, Jésus est le Messie pour Israël et pour tous les peuples du monde. Acte des Apôtres, 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faut être sauvés. N'est pas par lequel nous pouvons être sauvés. Il nous faut être sauvés. Dieu veut notre salut. Et si nous le rejetons ou si nous passons dessus, eh bien, nous serons perdus. Mais Dieu dira un jour, « Toi, tu n'as pas voulu. » Parce que la volonté de Dieu, c'est notre bonheur et notre bénédiction éternelle par Jésus-Christ, le Messie. Et ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas simplement une croyance aveugle. Nous pouvons prouver que Jésus est le Messie.